Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
La fin du mois de décembre, c'est le mois de la lumière, Didier. Tu savais ça ?
Non. D'accord.
Alors, bah, on se souvient des Saturnales.
Ah, c'est ce que je veux dire. Moi, je connaissais les Saturnales,
fêtes,
oui.
Voilà, les fêtes romaines du solstice d'hiver. En fait, on voit
le retour à la lumière
du tunnel.
C'est ça, exactement.
Les jours rallongent, c'est ça que ça veut dire.
Oui, on est d'accord.
Alors, on a Noël, nous, en fait, qui nous prépare à ça, avec toutes les lumières partout. Ça nous fait du bien.
C'est ça, on a besoin.
Et Noël s'est superposé avec les Saturnales, en fait, pour répondre à la fois à notre besoin de lumière et aussi notre besoin de spiritualité.
D'accord.
Alors, après avoir parlé du christianisme en Asie
la dernière fois,
aujourd'hui, on va parler du bouddhisme, qui est quand même très présent en Asie. Et puis, sans trop de transition, c'est vrai,
vraiment,
avec une petite chanson peut-être quand même.
Oui, c'est ça.
Didier, tu nous feras revenir au plaisir terrestre et festif.
Comme plaisir.
Tu vas nous expliquer d'où vient le spam.
C'est ça, comme convenu la semaine
dernière. Et comment l'utiliser. Voilà, on l'avait évoqué la semaine dernière. Oui. C'est le spam, disons-le tout de suite, c'est du pâté. On en parle. Et le spam va vous étonner. Ça, on en est certain.
Effectivement, j'espère que Bouddha me pardonnera de parler du pâté. Le plus célèbre d'Asie. Bon, allez, avant. Est-ce que le bouddhisme est une philosophie ou une religion ? Je commence fort.
Tu y vas fort. Oui, tout à fait, Didier. Est-ce que c'est une philosophie ou une religion ? Une grande question.
Ouais, je pense.
Une grande question, ça c'est sûr. Et ça fait l'objet de nombreux débats, car le bouddhisme ne correspond pas complètement à la définition des religions monothéistes, comme le christianisme ou l'islam. Ouais. Alors, je vais tenter d'expliquer ça clairement, et puis chacun va se faire sa propre opinion. Alors d'abord, une petite définition de ce qu'est une religion. Oui. C'est un système de croyances et de pratiques liées au sacré, incluant la croyance en une ou plusieurs divinités, avec des rites, des prières, des cérémonies inscrites dans un texte sacré ou des écritures, le tout pratiqué par une communauté de fidèles.
Ah, jusque-là, je te suis.
Voilà, alors, on pourra en rallonger encore sur la définition.
La
religion veut quand même, dans l'absolu, le bien de l'humanité, ça c'est important quand même de le préciser.
Oui, normalement, à la base.
À la base, toutes les religions veulent le bien de l'humanité.
On est bien d'accord.
Alors, le bouddhisme partage certains de ses aspects, mais en diffère aussi fondamentalement de tout ce que je viens de vous dire.
Alors, Corinne, du coup, quels sont les aspects qui pourraient en faire une religion ?
Alors, c'est par ses aspects spirituels,
Didier. D'accord.
Le bouddhisme aborde des questions essentielles comme le sens de la vie, celui de la souffrance et de la mort. Alors, il propose des réponses et des pratiques pour atteindre un objectif transcendantal qu'on appelle le nirvana, qui est l'extinction de la souffrance et de l'ignorance. Alors, le nirvana, en fait, c'est pas un paradis. Hein.
Ouais.
C'est, on arrête de souffrir définitivement, on ne ressent plus rien.
Okay.
On est dans un état de bien-être absolu qui est l'absence d'émotions, de ressentis, etc.
D'accord.
Voilà, l'extinction, c'est ça le nirvana.
Oui, ok.
Alors, le bouddhisme inclut aussi des rituels religieux, prières, offrandes, méditations et des célébrations, sans oublier les temples et les statues de Bouddha qui jouent un rôle central dans la vie des pratiquants et des non-pratiquants d'ailleurs aussi.
Oui. Hein,
beaucoup achètent des statues de Bouddha sans être bouddhiste.
Oui, c'est ça, juste parce que c'est joli, que c'est agréable.
Et puis que ça évoque quelque chose de positif.
On a envie d'emmener un morceau de
sérénité.
Oui.
Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'existence des fidèles, il existe une communauté monastique avec des moines et des nonnes qui suivent des règles strictes et des laïcs qui soutiennent les moines par des dons. Hein, en Asie, on voit les moines sortir avec leur bol et on leur donne les offrandes,
pour
qu'ils puissent manger.
Oui.
Alors, le bouddhisme possède également des textes canoniques qui servent de base à son enseignement, fondés sur les préceptes bouddhistes, comme ne pas tuer, ne pas voler, comme les grandes religions monothéistes, en fait.
Alors, maintenant, on a parlé religion, mais dis-nous ce qui pourrait en faire plutôt une philosophie alors.
Eh bien alors c'est très simple Didier ça, c'est l'absence de divinité créatrice.
Oui, bien sûr.
Voilà, il n'y a pas de divinité créatrice dans le bouddhisme et il n'y a pas de dieu créateur omnipotent et omniprésent. Bouddha n'est pas un dieu, c'est un humain considéré comme un guide spirituel éclairé et rationnel que l'on vénère.
D'accord.
Voilà, il est vénéré.
Oui, ça n'empêche pas.
Le bouddhisme encourage l'analyse critique et l'introspection pour comprendre la réalité. Ça aussi, c'est quand même un concept important. Par exemple, Bouddha disait « Ne croyez pas mes enseignements simplement parce que je les dis ». Expérimentez-les par vous-même.
Ah, ça.
Ça, c'est de la philosophie, on peut le dire. Et contrairement aux religions qui mettent l'accent sur la foi ou la dévotion, le bouddhisme insiste sur des pratiques personnelles, comme la méditation, l'autodiscipline, ouais. Pour se transformer soi-même et ainsi transformer le monde, Didier.
Ok, d'accord.
Alors, l'autre idée fondamentale qui sépare le bouddhisme d'une religion, c'est qu'il n'impose pas de vérité unique, universel, et ça c'est aussi la grande différence. Il propose un cheminement spirituel adaptable aux besoins de chacun. Et pour conclure et répondre à la question, selon chacun et selon la culture, c'est une religion et pour d'autres une philosophie.
Voilà.
Donc je ne tranche pas.
Non, non, mais tu fais bien.
Aujourd'hui, c'est l'une des grandes traditions spirituelles et philosophiques du monde, hein, c'est vrai, pratiquée par des millions et des millions de personnes en Orient comme en Occident.
D'accord, très bien. Alors, Corinne, revenons à la genèse, s'il te plaît. Comment est né le bouddhisme ?
Alors, il a été fondé en Inde il y a plus de 2500 ans par Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha. Alors, Bouddha, c'est le nom qu'il a eu par la suite, ça veut dire l'éveillé ou celui qui sait.
D'accord.
Son nom de naissance,
oui,
c'est Siddhartha Gautama. Alors, il serait né en 623 avant Jésus-Christ à Lumbini, au Népal. Et son père était un roi, le roi Suddhodana. Ah oui. C'était le chef des Sakya, un petit clan du nord de l'Inde. Et Siddhartha vivait dans le luxe de son palais, c'était donc un prince.
Ah oui, je ne pensais pas comme ça, d'accord.
Protégé par son père de toute vision de la souffrance humaine. Et destiné à être roi, Siddhartha fut formé aux arts martiaux, à la politique, à la gestion du royaume. Mais un jour, il était très jeune encore, contre l'avis de son père, il va sortir du palais et il va découvrir à 29 ans, il avait encore rien vu du monde à 29
ans. Il était jeune.
Voilà. Il va découvrir les souffrances de son peuple, la pauvreté, la vieillesse.
Tout ce dont il était protégé dans le palais.
C'est ça, la maladie, la mort. Alors cette expérience va le bouleverser et cette expérience va lui faire comprendre que ni la richesse ni le pouvoir ne pouvaient protéger de la souffrance universelle.
C'est ça.
Et il va donc abandonner sa famille, vraiment.
Ah oui.
Sa femme, très jolie princesse, son fils aussi.
D'accord.
Et renoncer à tout son confort pour chercher une solution à la souffrance humaine.
Eh bien.
Voilà, donc moi je propose qu'on écoute le Sutra du cœur après avoir entendu toutes ces belles choses.
Okay.
C'est le bouddhiste mantra « To remove all obstacles » et c'est Tinatin.
Ok, alors écoutons. Hanya haramita shingyo kanji zaibo sagyo jin hanya haramita ji shoken gon kai kudo isai ku yakshari shi shiki ku iku ku hui shiki shiki sokuze ku ku sokuze shiki ju sogyo shiki yakubu nyo ze shari shi ze shoho ku sofu shofu metsu fu ku hu chofu zofu genze koku chumu shiki mu ju sogyo shiki mu gen ni bi ze shin ni mu shiki shoko mi soku ho mu gen kai nai shi mu i shiki kai mu mu myo yaku mu mu myo. Alors vous êtes toujours avec Asialogie sur Radio Alpa. Et disons, Corinne, quels sont les moyens qu'il a trouvé pour remédier à la souffrance humaine ?
Alors, Siddhartha Gautama, il a commencé par mener une vie d'ascète. Strict, pendant 6 ans,
d'accord.
En pratiquant le jeûne extrême et la méditation au risque de sa vie. Hein. Il a failli mourir de faim.
Il est allé loin.
Il est allé très très loin. Puis il en a conclu que l'ascétisme extrême n'était pas la voie pour atteindre l'éveil. Alors c'est ensuite qu'il s'est assis sous un figuier banyan, et ça on a cette image-là de Bouddha sous le figuier banyan, qui est un arbre sacré maintenant. Il s'est juré à ce moment-là de ne pas se lever avant d'avoir atteint la compréhension ultime. Il acceptait de manger, là, on lui apportait à manger.
D'accord.
Et c'est au bout de 49 jours et après avoir vaincu les tentations du démon des illusions que Siddhartha va atteindre l'éveil. Alors, c'est aussi Bodhi en sanskrit, l'éveil. Les bodhis, les saints bouddhiques, c'est les bodhisattvas, c'est ceux qui ont atteint l'éveil, mais qui ne sont pas devenus des bouddhas pour le temps après. Enfin, en étant devenu Bouddha, donc Siddhartha, va passer le reste de sa vie à enseigner ses découvertes. Et ces découvertes, on les appelle Dharma. Ouais. Et il va guider ses disciples.
Bah, du coup, moi, je veux en savoir plus. C'est quoi
tu
ces
veux
découvertes
savoir les
et son
découvertes,
enseignement
bah, bien les sûr, dharmas. Forcément. Alors, que sont les dharmas? Alors, pendant environ 45 ans, Bouddha va voyager à travers le nord de l'Inde. Il va enseigner à des personnes de toutes cases, de toutes conditions. Mm-hmm. Et ses enseignements incluaient plusieurs concepts. Alors, il y a d'abord les quatre nobles vérités. Il y a la vérité de la souffrance, c'est la vie qui est marquée par la souffrance, l'insatisfaction et l'impermanence, c'est-à-dire un jour on souffre et un jour on ne souffre plus. Mmh. Hein, donc quand on souffre, il faut savoir qu'à un moment donné on ne souffrira plus, donc ça c'est la vérité de la souffrance. Il y a la vérité de l'origine de la souffrance, alors pourquoi on souffre? Ça vient du désir. Trop grand peut-être, de l'attachement trop grand aussi peut-être, et de l'ignorance qu'il faut absolument juguler, hein. Enfin, du moins il faut surtout tout faire pour se cultiver.
C'est ça.
Donc ça c'est l'origine de la souffrance, si on est ignorant, on souffre.
Oui.
La vérité de la cessation de la souffrance, qu'il est possible de surmonter en atteignant le nirvana aussi, ce qui n'est pas facile du tout.
Je veux bien croire.
Voilà, car pour cela il faut connaître un autre de ces enseignements, c'est la vérité du chemin menant à la cessation.
Okay.
Et ce chemin est connu sous le nom de l'octuple sentier qui comprend 8 pratiques divisées en 3 catégories.
Oula,
alors ça devient compliqué,
mais non. Ah non.
Il y a la catégorie sagesse, avec la vue juste.
Oui. Hein,
et voilà, c'est comprendre les 4 nobles vérités, c'est penser juste, cultiver la bienveillance, renoncer à la haine, donc ça, c'est quand même facile
ça
à retenir.
Ça va, jusque-là,
voilà.
Je suis.
Il y a la catégorie éthique avec la parole juste, ne pas mentir ou utiliser des mots nuisibles, l'action juste, agir avec bienveillance et éviter la violence, et le moyen de subsistance juste. Mmh. Avoir un métier éthique. Voilà ce que disait Bouddha.
Ah, d'accord. Là,
tu vois,
dit comme ça, je m'en sors.
Tu vois.
Effectivement, je suis assez...
Voilà. Et il y a la catégorie concentration, c'est l'effort juste. Éviter les pensées négatives et cultiver les pensées positives. Ça
là
aussi, c'est
je,
facile.
Je suis assez d'accord.
Voilà. Okay. L'attention juste, développer une conscience de l'instant présent et atteindre un état méditatif profond, c'est la concentration juste aussi.
Ah ok, bon, ça
tu vois, c'est pas si compliqué
non,
quand même.
Oui, je n'avais pas bien...
Pour réécouter une fois Zoologie, tu sauras tout.
Ok, bon alors, ma culture est limitée, mais tu ne m'as pas parlé de karma, de réincarnation et tout ça.
Alors, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que ce sera le sujet d'une autre émission, Didier.
Ah, voilà,
sinon, on déborderait trop,
c'est
franchement.
Ça. D'accord.
Alors, je vais seulement en dire quelques mots avant de terminer l'histoire de la vie de Bouddha.
Ouais.
Alors, le karma d'une personne est déterminé par ses actions bonnes ou mauvaises qui influencent son existence présente et future. Alors si on a un bon karma, notre vie réincarnée sera meilleure.
Ouais.
Et le cycle des renaissances successives s'appelle le samsara. Il y a un parfum qui s'appelle comme ça.
Ah oui ?
Samsara, oui.
Ok.
Oui, oui.
Ça appelle un cadeau.
Oui, je pense qu'il
c'est
existe
Noël,
toujours.
C'est,
parfum, ça. C'est ça, c'est le cycle des renaissances, le samsara.
Très bien.
Alors l'objectif ultime étant de sortir de ce cycle en atteignant, comme je vous le disais, le nirvana.
Ouais.
Parce que se réincarner sans arrêt, ça peut être très très fatigant.
Ah.
Bah, surtout si on revient en arrière, hein, si on devient, redevient vers de terre.
Ah oui, oui. D'accord. J'avais pas vu comme ça, mais effectivement.
Voilà. Hein. Mais revenons à Bouddha. Il a aussi fondé ce qu'on appelle la Sangha.
D'accord.
C'est la communauté de moines et de nonnes pour préserver et transmettre les enseignants de Bouddha et encourager tous les laïcs à pratiquer la générosité, l'éthique et la méditation. Et puis, à 80 ans, Bouddha annonça à ses disciples qu'il entrerait bientôt dans le parinirvana, l'état de libération finale après la mort physique, sans réincarnation. Voilà.
Okay.
Alors, il est mort après avoir... Alors ça, c'est quand même un peu étonnant. Il est mort après avoir mangé un repas offert par un fidèle. S'il est mort d'une intoxication alimentaire. Il n'est pas mort empoisonné, en tout cas.
Le fidèle n'était pas très...
Voilà.
Voilà. Okay.
Alors, avant de mourir, il a donné un dernier enseignement. Hein. Toutes les choses qui composent le monde sont impermanentes. Donc transitoire.
Ouais.
Faites tout votre possible inlassablement en étant à tout moment attentif, présent et conscient. Voilà.
Allez, d'accord. On va vous laisser méditer là-dessus. Mais j'ai bien compris, du coup, de toute façon, qu'une émission, ça ne suffisait pas.
Non, on y reviendra.
Et en quelques mots. Et du coup, eh bien, on verra la suite et puis quel est son héritage et tout ça, quoi.
Bah, oui, mais quand même, j'ai ajouté quelques petites choses.
Ouais,
c'est que ses disciples ont transmis oralement des enseignements qui ont été compilés dans des textes qu'on appelle le Tripitaka. Ça te dit peut-être quelque chose.
Oui, ça me parle un peu. Ouais.
Alors, Tripitaka, ça veut dire les trois corbeilles.
Mm-hmm.
Et c'est un nom qu'on connaît bien puisque c'est le nom du moine des pérégrinations c'est vers
ça,
l'ouest.
Voilà pourquoi.
Le moine chargé de ramener les écrits bouddhiques en Chine, souvenons-nous.
Et oui.
Alors par la suite, le bouddhisme s'est répandu progressivement en Inde, en Asie, dans le monde entier. Et on peut dire de Bouddha que c'est un guide spirituel universel qui a montré le chemin, un chemin accessible à tous en pratiquant la non-violence, le respect, la compassion, la tolérance. Voilà. Alors il y a plusieurs courants et ça j'en reparlerai. Il y a le Theravada qui est la voie des anciens, qui est pratiquée en Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Birmanie. C'est le bouddhisme originel. Il y a le Mahayana, le grand véhicule pratiqué en Chine, au Japon et en Corée.
D'accord.
Et le Vajrayana, le véhicule de diamant, qui prédomine au Tibet et en Mongolie.
D'accord.
Et c'est le Dalai Lama qui est la figure clé de ce bouddhisme Vajrayana.
D'accord.
Ok. Voilà.
Bon.
Une petite pause méditative serait la bienvenue,
je
pense pas qu'on va trop méditer avec ce que tu as choisi, Didier. C'est une chanteuse coréenne, c'est Jisoo et c'est Flower.
C'est ça.
Retour en cuisine avec toi Didier, tu vas nous apprendre à utiliser le spam, mais surtout à nous dire ce que c'est d'abord. Donc le spam, une conserve de viande dont les Coréens raffolent.
Et oui.
Alors
et
qu'est-ce que c'est le spam Didier?
Voilà. Le spam, vous êtes sûrement, d'ailleurs j'allais dire peut-être, mais sûrement inconnu. En France, c'est vrai que le pâté de porc en conserve, c'est pas très populaire.
Bon, c'est vrai.
Je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis du côté de chez Enaf, mais voilà, c'est pas ce qu'on préfère. Il nous renvoie une image un peu de période de guerre ou de vraie viande qui se fait rare. Enfin, pourtant, aujourd'hui en Asie, il y a un pays où le spam a un succès fou. Eh ouais, c'est la Corée.
Alors, étonnant.
C'est
enfin,
ça.
C'est étonnant en première intention.
Mais on va
après.
Vous expliquer.
Oui.
Alors, on va laisser nos a priori justement de côté pour découvrir l'histoire d'amour entre les Coréens et le spam.
Wow. Ah,
je vends du rêve. Le spam est une marque de conserve de viande transformée, produite depuis 1937 par l'entreprise américaine Hormel Food. Il s'agit d'un mélange de porc, de jambon, de sel, d'eau, de sucre et d'agents de gélification, ce qui donne une texture moelleuse, facile à découper, à cuisiner, car oui, on le cuisine.
Et oui, ça se mange pas sur une tartine comme ça.
Ah non, non. Non, bien qu'il soit d'origine américaine, le spam est devenu extrêmement populaire en Corée du Sud et dans d'autres pays d'Asie. En grande partie à cause de la présence américaine, bien sûr, durant la guerre de Corée.
Oui, voilà,
dans les années 1950, depuis, il existe là-bas d'autres marques fabriquées sur place.
Alors pourquoi le spam est-il si populaire en Corée du Sud?
Alors ça c'est facile à comprendre, pendant la guerre de Corée, de 1950 à 1953, les Coréens souffraient de la faim.
Oui, beaucoup.
Et oui, les soldats américains présents sur place avaient des stocks de spam dans leurs rations. Ils les ont partagés tout simplement. Les Coréens ont donc commencé à consommer ce pâté. Et puis depuis, le spam est devenu un aliment bien ancré dans la culture coréenne et sa cuisine.
Donc ils se le sont approprié, on peut le
c'est
dire.
C'est ça, c'est ça. Et beaucoup se sont moqués un petit peu du spam, ça c'est certain. Dont les Monty Python qui ont fait un sketch très drôle et une chanson dans les années 70.
Oui,
voilà
ça,
pourquoi
c'est
on appelle d'ailleurs, attention, les courriers indésirables, des spams. Eh ouais, c'est tiré de ça. Asialogy vous offre... Alors, attention, c'est cadeau. Je vous offre pour l'émission...
C'est un cadeau
petit...
de Noël.
Ah bah
c'est
là,
cadeau
c'est,
de Noël.
C'est mon petit, voilà, c'est mon petit cadeau de Noël.
Un petit public.
C'est la petite chanson très courte du spam, du sketch des Monty Python. Voilà.
Oui, on n'écouterait pas
non.
toute la journée. Hein.
Non, c'est, de toute façon, je te rassure, c'est très court. Voilà, c'est ça. Alors, ouais, il faut voir le sketch hein, pour
oui,
comprendre.
Oui, on le trouve facilement sur YouTube.
Oui, mais c'est... comme tout, voilà,
mais
on
c'est incroyable.
Tout sur YouTube.
C'est incroyable que ça ait donné le nom au courrier indésirable.
Oui. Hein. Bah, c'est les informaticiens, ils ont dû s'amuser.
Parce que ça couvre
tout
le spam, c'est pour c'est ça. Enfin, il faut regarder le sketch pour
tout comprendre. Il faut comprendre. Ah, bon, après, depuis la vague... Ailu, il bénéficie en Occident d'une popularité inattendue et puis illustre comme un produit qu'on peut devenir une icône culturelle, pardon, quoi, en fait.
Oui. Bah, tu vas bien nous donner quelques recettes typiques de la cuisine coréenne avec du spam, Didier.
Parce que quand même, reporter pour aguerri, puisque oui, j'ai goûté le
t'as
spam.
T'as goûté le spam.
Oui, oui. Bien sûr, enfin, il y en a des dizaines en fait très faciles à faire qu'on trouve sur le net, mais je ne vais parler que des plus populaires et simples à réaliser. Alors, le plus incroyable des plats, c'est le ragoût de l'armée. Il a été inventé après la guerre de Corée. C'est un mélange d'ingrédients coréens avec du spam. C'est un plat... ce plat, bon, il est chaleureux, épicé, rempli de saveurs pour les Coréens. Je ne vous donne pas cette recette-là, car c'est un peu long dans sa description. Mais les ingrédients. Il faut du spam, des nouilles instantanées, de la viande hachée, du kimchi, des oignons, du poireau, des champignons... des saucisses, du tofu, oui, si, des aromates, de la sauce soja, du piment et du bouillon. Eh oui. Alors, je vous cache pas que c'est plutôt pas un plat light, c'est plutôt un plat d'hiver et il faut avoir plutôt faim quand même. Hein.
Oui, oui, oui. Bah, voilà. Quand on voit viande hachée, le spam, les saucisses, le tofu. Et le riz, bien sûr, qu'on sert avec.
Oui, non, ça c'est sûr que
ça tient au corps.
C'est pas avant l'été pour ça mettre le maillot de bain, oui. c'est pas bon.
Alors, donne-nous des recettes plus légères,
oui,
justement, Didier. Quand
on peut mettre du spam dans des gimbap, les rouleaux de riz enroulés d'algues, similaires au maki japonais, en plus large et moins épais. Le spam y ajoute une petite touche salée et savoureuse qui se marie bien avec les légumes. Autre recette, les œufs au spam et aux légumes sautés. Alors ça, c'est rapide, c'est nourrissant, idéal pour un petit déjeuner ou un déjeuner simple. Alors, il vous faut, notez bien, une boîte de spam coupée en petits dés, deux œufs, un poivron coupé en dés, un oignon vert coupé finement ou de la ciboulette, une petite carotte, là aussi coupée en dés, et puis une cuillère à soupe de sauce soja. Alors, on fait sauter les dés de spam, on y ajoute les poivrons, les carottes, et quand c'est cuit, on ajoute les œufs battus en omelette. Voilà, vous voyez bien, la sauce soja, on rajoute de l'oignon vert en dernier, et c'est vraiment à essayer. C'est très, très bon marché.
Oui, c'est très facile à faire. Enfin, moi, je vais tester ta recette, Didier.
Alors, moi, j'ai essayé aussi le spam avec du riz classique.
Tout bête. Revenu à la poêle,
poêlé,
quand même.
Voilà, le spam grillé à la poêle. Bon, ça n'a pas été ma soirée culinaire la meilleure de l'année, mais ça se mange quand même. J'avoue que c'est pas, j'y reviendrai pas tous les soirs.
Mais je pense que l'omelette, là, ça ne doit pas être mal.
Bon, en fait, c'est polyvalent, hein, malgré sa simplicité. Il peut être intégré en fait, dans beaucoup de plats. Hein.
Bah, merci pour ces bonnes idées, Didier. Alors, le spam, c'est aussi ce qu'on offre.
Oui.
Tu nous l'avais dit
oui,
la semaine dernière
pour ça,
pour
commencé
les cadeaux.
À en parler.
Et on offre le spam pour les fêtes, particulièrement en Corée.
Oui. Le spam est devenu presque un produit super populaire comme cadeau. Il est souvent surtout offert pendant les fêtes de la Lune et puis le Nouvel An. Les magasins proposent en fait des coffrets de spam de différentes tailles, souvent accompagnés d'huile et d'autres denrées alimentaires, comme on en avait parlé.
Oui.
Les boîtes sont emballées comme si c'était un produit de luxe, hein, Corinne. Attention. Hein.
Oui, mais c'est vrai. C'est moi, je suis toujours étonnée.
Oui,
je m'étonnerais
quand même.
Toujours, je pense.
Vu d'ici, ça, c'est surprenant quand même. Je vous l'accorde. Alors, la marque Spam, en fait. Elle est presque impossible à trouver en France, hein. Mais on trouve des marques asiatiques facilement, comme la marque coréenne Luncheon Meat. Mais le plus simple et le plus économique, en fait, parce que c'est moins cher quand même que d'aller dans un marché asiatique, pour pas dire.
Oui,
Luncheon
Meat, ça coûte 5 euros.
Voilà,
quand même.
C'est ça. Et tandis qu'il y a le délice de jambon de la marque Tulip, lui, on le trouve vers les 2 euros. Ah, ça, c'est abordable.
Oui, oui, je me demande même si c'est pas moins cher encore.
Ah, bah, je ne sais pas. Moi, je l'ai vu à 1,80, 1,90, 2 euros.
Ouais.
À voir. Alors, rendez-vous dans votre supermarché habituel au rayon conserve. Là, il va y avoir une ruée sur le spam. Comment
Mais de la marque Tulip.
C'est ça. Oui, quand je dis spam, oui. Près, en fait, des pâtés et des conserves de poisson, on le trouve dans ce rayon-là. Alors, on trouve partout, généralement, alors plutôt en haut ou en bas du rayon, hein, parce que c'est quand même pas ce qui parle le plus. Attention à ne pas confondre. Vous devez acheter le délice de jambon et pas le cornet de bœuf, parce que ça, c'est aussi la ration militaire.
Oui, on peut être très déçu. Hein. Oui, c'était dans les
rations
militaires.
C'est pas la même chose. C'est au bœuf, donc ça n'a rien à voir. Donc, bon.
Donc, tu dis que ça coûte 1,90€
le
pâté tulipe. On fait pas de la pub, mais de toute façon, ça peut quand même rendre service d'avoir ça dans son placard. On sait jamais ce qui nous attend.
Faut tester, faut goûter. Voilà. Faut pas mourir idiot, faut essayer.
Faut pas mourir idiot, faut essayer. cette recette d'omelette, moi je la trouve sympa.
Ça se teste.
Alors Spam, Didier, moi aussi je vais t'apprendre quelque chose.
Vas-y, dis-moi.
Alors, on sait pourquoi les courriels pourris, les pourriels s'appellent Spam, puisque c'est lié à la chanson
Des Monty Python.
Voilà. Mais pourquoi le Spam s'appelle Spam? Ça veut dire tout simplement Spiced Ham.
D'accord.
Jambon épicé.
Alors, j'ai cherché les épices, moi.
Ben non, il n'y a pas. Il est assaisonné, je pense que ça veut dire ça. Jambon assaisonné, mais ça fait, quand tu prononces ça vite, ça fait spam.
Ok. Eh ben, très très bien.
C'était notre cadeau de Noël, Didier, pour nos auditeurs.
Et alors, le cadeau de Noël des auditeurs, c'est de nous envoyer sur la page Facebook, je vais y arriver, les photos de leurs recettes pour qu'on voit s'ils ont essayé.
Moi, j'aimerais bien. C'est sympa.
Ah, ce serait cool. Ah,
donc, il y aura peut-être une rediffusion entre Noël, entre Noël et le premier de l'an.
D'accord.
On va rediffuser l'émission sur la Corée du Nord, qui est une émission qui avait bien intéressé nos auditeurs. Et on vous souhaite tous un joyeux Noël. On se retrouve la première semaine de janvier. Et vous pouvez bien sûr nous réécouter nos podcasts.
Bien sûr, il faut. Pour les fêtes, pour digérer tout ça tranquillement.
En tout cas, là, on sera encore là samedi matin.
C'est clair.
Et
après, on se retrouve l'année prochaine.
On se retrouve l'année prochaine. Voilà.
Très bien.
Bon, allez, joyeux Noël à tous.
À très bientôt. Joyeux Noël. Thank you.